Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI. Grand reportage.
Le plus beau jour pour moi, c'est quand je suis désigné pour mener une mission, quelle qu'elle soit. Que ce soit une mission de sécurisation ou une mission de sensibilisation. Sur par exemple les maladies, les dangers de l'immigration clandestine ou encore du trafic de drogue. Quelle que soit la mission, je l'accomplis par tous les moyens.
Ils sont souvent l'un des rares contacts pour les populations nomades de l'est de la Mauritanie, une région désertique, difficile d'accès, qu'aucun véhicule motorisé ne peut atteindre. Ils apportent les nouvelles du monde, règlent certains conflits entre éleveurs et surtout apportent les premiers soins à des familles qui vivent dans le plus grand dénuement. Ils ont également un rôle déterminant dans la surveillance des quelques 1200 km de frontières avec les régions troublées du Mali. Rencontre avec les hommes du groupement nomade de la garde nationale mauritanienne, Méhariste, les sentinelles du désert. C'est un grand reportage de Mounia Daoudi.
...1180 km séparent Nouakchott de Walata dans le sud-est mauritanien. La route de l'espoir, qui part de la capitale, laisse très vite place à une piste chaotique et interminable et des bourgades écrasées par la chaleur de ce mois de novembre. Deux jours de voyage à travers des plaines désertiques et mornes où des troupeaux de chèvres et de dromadaires semblent livrés à eux-mêmes à la recherche de pâturages. Régulièrement aussi, des paysages à couper le souffle avant l'arrivée aux portes de Walata. À quelques kilomètres de l'ancienne cité caravanière, à l'abri d'une dune, une unité du groupement nomade a installé son campement.
Ça, c'est un vrai thé du désert. Et le meilleur des thés, c'est celui du soir, préparé sur un feu de bois. C'est celui qui fait disparaître la fatigue de la journée chez les nomades. Le thé des nomades. Préparé spécialement sur ces braises, c'est vraiment le meilleur des thés. À cette heure de la journée, mais aussi celui du matin. C'est parce que nous sommes des méharistes et que nous vivons la vie des nomades.
Installés autour du feu, les selles disposées pour servir d'abri, le brigadier Massoud Mbak et ses hommes savourent les dernières heures du jour. Dans son arabe châtié, le brigadier se livre.
Je me suis engagé dans le groupement de nomades en 1989. Cela fait plus de 31 ans maintenant. J'étais encore un simple élève quand j'ai choisi de m'engager. J'ai informé ma famille, ils m'ont soutenu et encouragé. D'abord parce que les méharistes font partie de la tradition de la nation mauritanienne. Ils sont l'un des emblèmes de notre pays. Je me suis aussi engagé parce que notre mission est noble. Partir au-devant des populations nomades pour les sensibiliser, pour les informer et apporter de l'éducation à des populations qui ne savent ni lire ni écrire. Et puis il y a aussi les opérations armées de sécurisation. Ce travail peut parfois être difficile, en particulier quand nous menons des missions sur la frontière pour assurer la sécurité de nos concitoyens et celle du pays. Ce sont des moments qui peuvent être difficiles. Cet homme-là travaille à mes côtés depuis 15 ans. Il s'est engagé en 1995, il y a 26 ans. Puis il a été assigné à mon groupe en 2006. Et depuis, nous travaillons ensemble. Plus qu'un frère. Les méharistes sont unis par une profonde estime les uns pour les autres. Ils sont comme des frères de sang. Ils partagent leur repas, le thé, le travail, tout. Mes hommes devancent les ordres et les exécutent comme s'ils venaient de leur propre père. Les hommes que vous voyez là sont parmi les plus braves. Il n'y a jamais aucun malentendu entre nous, aucune opposition. Il n'y a que de la fraternité et le travail pour la patrie. Que Dieu en soit loué.
La nuit est tombée, le feu éclaire les visages graves. L'heure de la prière du couchant.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu
Les rires résonneront longtemps dans la nuit avant de s'estomper pour un repos mérité.
Colonel, ça se passe comme vous voulez?
Le colonel Ahmad Abdallahi Eili commande le groupement nomade mauritanien. Campé sur la dune, Tokiwoki à la main, il supervise les préparatifs de ses hommes.
Ça, c'est un peloton. Un peloton, c'est à peu près 21 éléments comme ça. C'est l'élément d'éclairage.
Donc là, c'est en fait une unité qui est à l'avant?
Voilà, c'est une unité à l'avant qui fait l'éclairage. Toujours, on fait la mission avec une compagnie. C'est 80 éléments. 3 pelotons de combat et un peloton de commandement.
Donc c'est 80 méharistes qui partent
sur le dos des chameaux, appuyés par des véhicules. Et on coordonne avec les unités des autres forces armées dans la région.
À quoi ressemble une mission type? Ils partent combien de temps, par exemple?
On peut faire 2 mois, 3 mois. Quand on part, nous avons un trajet qu'on doit aller faire. On dit on va passer sur 300, 400, 500 kilomètres. On va faire le tour. Nous avons nos infirmiers, nous avons une école sur le dos des chameaux. On représente l'administration, on représente la police judiciaire, on règle les problèmes qui se posent entre les populations. Et quand il s'agit d'un conflit qui est compliqué, on l'amène sur la Moukata'a de Nema. Et toujours, on aide la population, parce que souvent ces gens-là sont dans des coins arriérés. Personne ne peut pénétrer chez eux, sauf les méharistes, c'est les dos des chameaux.
Par exemple, quand il y a eu le Covid,
oui.
Vous étiez en première ligne.
Oui, mais bien sûr, on a sensibilisé la population. On a déplacé toute une équipe pour vacciner 15 personnes ou 10 personnes dans des coins arriérés. Et souvent, on sensibilise la population. Par exemple, les gens qui versent de l'eau à côté des puits, on les nettoie, on leur montre comment ils peuvent faire un petit champ. Là, où il y a les légumes, une petite poulailler comme ça, pour mieux manger, pour mieux avoir une autonomie. Ça, c'est notre rôle. On leur donne des informations. L'État a construit une route vers Kedah, l'État a donné à faire des forages dans les zones. On fait tout ça.
Donc il y a un volet sécuriser la frontière, mais il y a aussi un volet social, développement.
Voilà. C'est pour cela que l'ACMI, les gens d'Al-Qaïda, ils n'ont pas pénétré parce que la population, elle se débarrasse d'eux parce qu'elle a trouvé une aide économique qui leur permet de vivre tranquillement. Parce qu'avant, c'est des points que l'ACMI rentre là-dedans parce qu'elle aide la population, parce qu'il n'y a pas de l'État.
Aujourd'hui, s'il y a un problème, les populations vous préviennent?
Mais bien sûr. Sont de notre côté. Et quand il s'agit d'un élément suspect, ils nous rencontrent. Et ça, c'est une bonne méthode. Le développement-là, c'est une très bonne méthode.
Une méthode qui a fait ses preuves. Depuis 10 ans, la Mauritanie n'a pas connu d'actes terroristes sur son territoire. Et ce continuum sécurité-développement est au cœur du projet Gaoudat porté par l'Union européenne. 3 600 000 euros pour financer cette montée en puissance du groupement nomade. Mais pas que. Gaoudat, c'est aussi une dizaine de puits équipés installés sur la chaîne du Dhar, une région déshéritée située aux confins de l'Est mauritanien. Pierre de Jong est le vice-président de l'Institut Témis, ce colonel à la retraite, passionné de Mauritanie et le coordinateur du projet Gaoudat qu'il défend avec enthousiasme.
Sécurité et développement, c'est vraiment le cœur, c'est quoi? C'est les populations. C'est vraiment amener du développement pour éviter qu'elles basculent du côté du monde terroriste. C'est ce qui s'est passé dans d'autres pays du Sahel, où l'État n'était pas capable, ou n'avait pas l'envie, ou que sais-je, ou les moyens de s'intéresser aux populations, et les populations ont basculé massivement de l'autre côté. En plus, on voit bien que c'est un continuum, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Sécurité et développement, parce que ce sont des opérations qui vont durer des années. On n'est pas sur des opérations de court terme, on n'est pas sur 1 an, 2 ans, on leur construit 3 puits, puis on est tranquille. On voit bien qu'il faut, derrière, il faut construire des garacelles, des postes relais, il faut amener du soin, de l'éducation, etc. Donc, globalement, vous avez une Mauritanie utile qui est le long du fleuve Sénégal et l'autre côté, Nouakchott. Tout le reste sont des espaces immenses où il n'y a quasiment personne. Donc l'État qui a pris en compte depuis les années 2000 la problématique de sécurité, l'État sait qu'il doit agir au plus loin. Donc le rôle de l'État va se faire jusqu'à la limite de la frontière. Mais comment le faire avec de telles distances? Et c'est là que l'Union européenne joue un rôle extrêmement important. C'est qu'en fait, en appuyant cette stratégie mauritanienne, eh ben, on peut aller quasiment au niveau de la frontière à 1200 km. Il n'y a que l'Union européenne qui peut faire ça, globalement. Le bilatéral n'a pas le temps et l'État mauritanien agit dans les zones où il y a beaucoup de monde, où il y a des problématiques extrêmement lourdes. Là, on travaille dans les villages où il y a 50 personnes, vous mettez un puits, vous venez 6 mois après et ils sont 2000. Je pense qu'il n'y a pas le choix, rien que pour lutter contre l'immigration clandestine, pour éviter que ces gens prennent un jour un pick-up, aillent à la frontière, un bateau et rejoignent l'Europe. Évidemment, il faut les fixer sur place et l'eau est un élément totalement déterminant.
Ici, nous sommes au fort de Walata. C'est un vieux fort qui a été construit au début du XXe siècle.
Un lieu chargé d'histoire, parfois douloureuse. Les murs ocre, aujourd'hui livrés au sable et au vent, emportent encore les stigmates. Mais pour le général Yaqoub Oulda Marbeyat de la garde nationale, ce lieu est aussi au cœur du dispositif du groupement nomade.
Ici, on est en hauteur. C'est une position qui domine le terrain. L'observation est très, très, très déterminante ici. Et puis, le terrain est contrôlé de façon permanente.
Vous souhaitez réhabiliter ce fort? Vous voulez en faire quoi exactement?
Dans le cadre de ce projet avec l'Union européenne, nous envisageons de faire le maximum pour réhabiliter ce fort, pour permettre à une unité au moins avancée du groupement nomade d'être ici omniprésente, sinon tout le groupement nomade.
Alors ici, nous sommes dans un fort qui domine la plaine d'où l'ennemi viendra. L'ennemi, il est où ici?
Bon, l'ennemi, il est très loin, il est sur la frontière. Nous, on surveille notre frontière, nos frontières sont très bien quadrillées et le groupement nomade agit dans le cadre d'un immense dispositif de sécurité qui a prouvé son efficacité ces dernières années, considérant que notre pays, depuis 2009, n'a jamais connu d'actes terroristes sur notre territoire.
À Niéna, il y a de l'eau. Autour du puits, les enfants se chahutent et chacun son tour, les plus âgés mènent les bêtes à l'abreuvoir. Le campement est ancien. Une centaine de khaïmas éparpillés sur une terre aride et inhospitalière. Le docteur Yahya Al-Hassan et son équipe ont pris leur quartier dans une de ces tentes bédouines.
Vous conseillez beaucoup de changer de régime alimentaire?
Oui, on l'essaye. Parce que j'ai constaté les maladies les deux plus fréquentes sont l'hypertension artérielle avec le problème de l'estomac. C'est à cause du régime alimentaire.
Mais c'est compliqué de faire changer de régime alimentaire à ces populations?
C'est très compliqué, mais on essaye de faire ça d'une manière qu'ils peuvent le comprendre, avec l'espoir. C'est ça.
Oui, c'est pour ça que vous lui avez dit de marcher une demi-heure tous les jours.
Une demi-heure par jour. Une demi-heure de sport. Moi, il fait beaucoup d'activités. Par exemple, le type là, il fait beaucoup d'activités. C'est la nature de la vie. Mais on lui demande un sport régulier, chaque jour, 20 minutes, avec les changements de régime alimentaire. Mais ce n'est pas évident qu'ils vont le faire.
Vous venez régulièrement ici?
Oui, tous les 3 mois.
Tous les 3 mois.
On joue surtout pour la sensibilisation. Aussi, on donne des médicaments et les conseils, on insiste sur les conseils. Le problème, c'est les gens qui ne conseillent pas.
Alors justement, parfois vous arrivez et il y a des cas assez urgents. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça?
Si quelqu'un, par exemple, il y a une maladie sévère, on l'évacue avec l'ambulance, si nécessaire.
Et vous l'évacuez ici, par exemple, vers Nema?
En Nema.
Où il y a un hôpital?
Il y a bien, s'il y a un hôpital, il y a les spécialistes et tout ça.
Une 50aine de consultations ce jour-là pour l'équipe médicale du groupement nomade. Des médicaments pour réguler la tension, des injections pour soulager la douleur, des plaies nettoyées et des conseils, beaucoup de conseils, en attendant la prochaine visite dans 3 mois. Aujourd'hui, c'est jour de fête à Hachemim, un village situé à 60 km de la frontière malienne. Les hommes du colonel Ahmed attendent un invité de marque, le chef d'état-major de la garde nationale. Le général Mohamed Cheikhoud Mohamed Lemine vient en effet inspecter le tout nouveau centre de formation méhariste financé par l'Union européenne.
Cet endroit, c'est un vieux site idéal, point de vue nature de l'eau, puisque la nature de l'eau pour les chameaux est importante.
Nous sommes ici donc à Hachemim, et à Hachemim, quelqu'un nous a dit que ça va être la capitale des méharistes.
Exact. Ce sera un centre d'instruction. Il sera ouvert aux pays du G5, dont trois ont déjà des troupes chameliers, le Niger et le Tchad. Le Mali, je crois qu'ils sont tentés de faire l'expérience. Vous savez, les populations bédouines, c'est des populations assoiffées de renseignements, d'informations. Toute salutation commence par « Ishtari », quoi de neuf.
C'est la formule.
Donc, l'information circule. Et quand les hommes du désert, c'est-à-dire les bédouins, les chameliers, les bergers, les caravaniers, sont fidélisés, et puis on leur rend service, et puis ils sentent la sécurité, et ils vont nous donner des trésors d'informations. Les bergers sillonnent tout le Sahara à la recherche d'animaux égarés. Ils ne savent pas la notion de frontière. Et puis, ces hommes du désert, quand ils rencontrent le moindre détail, ils le scannent. C'est-à-dire que quand ils vous donnent une information, c'est une information détaillée, minutieuse. Mais j'ai souligné la nécessité d'une unité motorisée d'intervention. C'est l'unité de frappe. Les terroristes dans la zone, c'est des gens qui ont des véhicules, des 4x4. Ils sont bien entraînés. Donc, le chamelier sur un animal de 3 mètres, c'est facile de l'abattre. Alors que quand les unités méharistes localisent la menace, l'unité de lutte antiterroriste se déplace pour la mettre hors d'état de nuire.
À la délégation de Nouakchott, Gwilym Jones, le tout nouvel ambassadeur de l'UE, semble en tout cas convaincu de la stratégie adoptée par la Mauritanie.
Nous sommes très engagés avec les autorités pour travailler sur les deux plans, sécurité et développement. Les groupements nomades sont une partie d'un dispositif qui doit permettre, encore une fois, d'apporter les services de l'État à tous les citoyens, mais qui doit aussi se combiner avec un autre arsenal sécuritaire. Donc, par exemple, on est également en train de financer trois ULM qui seront équipés avec des caméras surveillance et d'équipements sophistiqués. Parce que pour un pays comme la Mauritanie, c'est très complexe pour à la fois surveiller ce territoire et apporter ce soutien à ces populations. Pour l'instant, nous, ce sur quoi nous sommes focalisés, ça a été de renforcer la présence des dromadaires. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait avec quelques centaines de dromadaires qui ont été financés. C'était très utile aussi de faire de la formation, parce que c'est une approche complète que de faire de la sécurité, mais aussi de faire du développement. Ça veut dire de former ces personnes. Donc par exemple, il y a un camp de formation qui est là. Il y a une clinique de santé mobile qui a été mise en place. J'ai bien pris note qu'il y a une demande aussi de regarder d'autres moyens motorisés pour venir en complément. C'est quelque chose qu'on va analyser.
Loin de la capitale, un homme est ce jour-là heureux, drapé dans sa dara bleue, le vêtement traditionnel maure. Sidi Mohamed Ould Sidi El-Mokhtar est le maire d'Hachemim.
C'est très important pour les citoyens de la commune d'Hachemim.
Ce centre va améliorer les conditions économiques de toute la région. Il va apporter les transports, les services de base, la santé. Avant, il fallait faire 32 km jusqu'à Nema pour se soigner. Maintenant, ce n'est même pas 800 mètres.
Il va nous garantir la sécurité. Même les voleurs auront peur de venir chez nous.
Très important pour les citoyens.
À 60 km de l'autre côté de la frontière, le Mali et son insécurité. Très légitimement, on ne peut que se demander si la stratégie mauritanienne est applicable ailleurs. Le colonel Pierre de Jong veut le croire.
Il est sûr que chaque pays a ses problématiques, mais le centre de formation d'Hachemim est un bon point. Pourquoi ? Parce qu'on pourra ouvrir ce centre aux voisins. La deuxième chose, c'est la valeur de l'exemple. Au Tchad, au Mali ou au Niger, ces problématiques de rapport aux populations existent. Il faut trouver une solution. Honnêtement, au Niger, surtout au Mali, ce n'est pas satisfaisant. Mais je pense que l'exemple mauritanien s'exporte sans trop de difficultés, sous réserve, encore une fois, d'être très pratique. Ça concerne l'eau, l'éducation. On n'est pas sur des sujets avec de l'armement, etc. Ce n'est pas ça la question. On est sur des sujets de rapport de l'État dans ce qu'il a de plus régalien, donc son armée ou sa police, avec la population. Et c'est vrai que le chameau, en finale, je veux dire, le groupement nomade est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne au rythme des populations.
Méharistes, les sentinelles du désert, un grand reportage de Mounia Daoudi, réalisation Pauline Leduc.